Alors, ce matin, on est dans Jean chapitre 5. Je ne sais pas si on peut mettre le petit PowerPoint, celui de Jean. Voilà. Jean 5, 1 à 47. Naturellement, on ne passera pas à travers tout ce chapitre-là parce que il y a trop de bonnes choses à l'intérieur. Puis, étant donné qu'il y a 47 versets, vous pouvez imaginer qu'il y a du matériel. Mais dans ce chapitre, et là, j'ai intitulé, j'ai pas trouvé d'autre titre que ça. On trouve pas le mot tsunami spirituel dans la Bible, mais littéralement, là, Jésus, dans le chapitre 5, provoque un tsunami spirituel dans sa communauté à Jérusalem et dans les environs. Alors, c'est tout un texte et c'est toute une situation extraordinaire. Et même, on a vu les quatre premiers chapitres, mais là, à partir du chapitre 5, aller jusqu'au chapitre 7, une chose qu'on peut constater, c'est que il va y avoir une montée d'opposition de la part des Juifs contre Jésus et son ministère à cause de ce qu'il fait et à cause de ce qu'il prétend être. Et en particulier, on le voit dans le chapitre 5, sa relation unique qu'il a avec Dieu. Il passe pas à côté. Et là, pour eux autres, c'est comme « c'en est trop ». Wow, là tu débordes, tu dépasses l'entendement, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de dire là. Et là, ils réagissent. Et à partir du chapitre 5, c'est vraiment là que ça commence, qu'on pourrait dire là que le début de la fin commence pour Jésus. Ou comme il dit, mon heure n'est pas encore venue là, eh bien le chronomètre de son heure a commencé au chapitre 5, avec qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et ce matin, on va en voir une partie, et plus tard, on va voir l'autre partie. Alors, le premier sujet de friction entre Jésus et les chefs religieux, les autorités juives, c'est justement en ce qui concerne l'observation du sabbat. Et là, Jésus, déjà, parce qu'il fait un miracle le jour du sabbat, et là, il dit à cet homme qui a été miraculé de prendre son lit et de marcher pendant le jour du sabbat, ça suscite toute une controverse. Mais c'est rien à comparer justement avec qu'est-ce qui va suivre, c'est-à-dire comment Jésus va expliquer pourquoi qu'il a pu dire à cet homme de prendre son lit et de marcher le jour du sabbat. T'es qui, toi, pour dire à quelqu'un de briser le sabbat? Ben, c'est ça un peu l'enjeu des chefs religieux, là. Comment ça tu peux dire à quelqu'un de prendre son lit et de marcher le jour du sabbat? Il va briser le sabbat, il n'en a pas le sabbat, il n'en a pas la loi de Dieu. T'es qui, toi, pour faire ça? Comprenez? Et là, Jésus va dire, « Je suis qui? » Va vous le dire, moi, je suis qui? Et là, il commence. Et là, c'est incroyable, tout ce qu'il va dire en ce qui concerne son identité et sa relation tout à fait exceptionnelle et unique, unique. Il n'y a pas personne qui a une relation avec Dieu comme Jésus en a une, et il explique c'est quoi. Et puis, pour eux, ça n'a pas de bon sens. T'es un fou, un malade mental, Jésus. T'es un blasphémateur. C'est impossible de dire ce que tu es en train de dire là. T'es-tu tombé sa tête? Alors, vous voyez, Jésus provoque vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Puis finalement, il va donner justement, il va expliquer pourquoi qu'il peut dire qu'est-ce qu'il dit, et en plus, il va non seulement dire, écoutez, si c'est juste moi qui dis ça, je comprends que vous n'avez pas à recevoir mon témoignage. Parce que quelqu'un qui rend témoignage sur lui-même, c'est pas tellement crédible. Mais il y en a quatre qui rendent témoignage de moi. Et entre autres, il y en a un qui non seulement il est crédible, mais il est encore plus crédible que n'importe qui d'autre qui pourrait rendre témoignage de moi, et ça c'est Dieu lui-même, mon Père. Il a rendu témoignage de moi. Et là, Jésus va expliquer tout cela. Fait que donc, à partir du chapitre 5, et en continuant comme ça, on est constamment confronté où les lecteurs ou les Juifs à l'époque de Jésus sont constamment confrontés avec cette question qu'ils doivent répondre. Qui es-tu vraiment, Jésus de Nazareth? Et quelle différence ça devrait faire dans ma vie de le découvrir? On est confronté à cette question-là, et vous l'êtes confronté ce matin à cette question-là, parce que Jésus, ce qu'il dit, ce qu'il fait, nous amène à nous poser cette question-là. Et c'est pour ça que Jean, quand il écrit son évangile, il espère que ceux à qui il a écrit premièrement, qui sont ses compatriotes juifs, soient en train de se poser cette question-là, puis que là, ils puissent y répondre en regardant ce qu'il est en train de dire sur Jésus et les miracles, justement, qu'il a sélectionnés, parce que Jean a sélectionné certains miracles, sur la multitude de miracles que Jésus a fait, de façon à répondre à la question « Qui es-tu vraiment, Jésus de Nazareth? » T'es qui, vraiment? C'est-tu vrai que t'es le Fils de Dieu? C'est-tu vrai que t'es le Messie? Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça devrait faire dans ma vie? Quel impact ça devrait avoir dans ma vie? On va prier ensemble. Avant de lire le texte, ou une partie du texte ce matin, on va lire les 15 premiers versets. Seigneur Jésus, merci, merci de nous avoir laissé ce témoignage de ta venue sur la terre. Ces Écritures qui ont été préservées à travers tant d'années, de siècles, et à travers tant d'oppositions et de gens qui ont essayé de détruire même ta parole et les témoignages écrits de cette parole. Il y a eu toutes sortes de mouvements à travers les années pour empêcher qu'on puisse avoir sous nos yeux ces témoignages écrits de ce que tu as fait, de ce que tu as enseigné et de ce que tu es. Ô Seigneur, donne-nous ce matin d'avoir un esprit ouvert, un cœur ouvert, que par ton Saint-Esprit, justement, on puisse aller dans ta parole et que la vérité qui est là pour justement nous interpeller puisse avoir accès à nos esprits et surtout aussi à nos cœurs. Et Seigneur, attire-nous à toi. Emmène-nous à contempler ta personne, la grandeur de ta personne. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, pour ma vie personnelle, pour chacune de nos vies? Ô Seigneur, transforme-nous par la vérité qui est contenue en toi et qui nous est témoignée par ta parole. Ô Seigneur Jésus, parle ce matin, que ta voix puisse se faire entendre, que ta voix, mon cœur, puisse l'entendre ce matin et la recevoir par la foi. Je te le prie en ton nom, Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, voici le texte biblique. Alors, ici, c'est la portion du verset 1 à 15, où c'est justement le miracle, la guérison, qui se passe à la piscine publique et qui se trouve être le troisième miracle que Jean utilise comme un signe pour essayer de montrer l'identité de Jésus. Alors, voici ce qu'on lit au verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques. » Et là, ici, vous voyez, il y a une petite genre de crochet pour une partie du verset 3 et le verset 4, qui dit, « Alors, ces malades attendaient le mouvement de l'eau, verset 4, « car un ange descendait périodiquement dans la piscine » et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle était sa maladie. » Pourquoi est-ce qu'il s'est encroché comme ça? C'est que dépendamment des manuscrits, ce sont les copies des évangiles qui ont été écrits, de tous les livres, en fait, du Nouveau Testament, et certaines de ces copies-là ont soit une partie de cette phrase-là, ou la totalité, ou pas pantoute. Donc, ici, c'est débattu parmi les exégètes, à savoir, est-ce que c'était là, à l'origine, dans l'Évangile de Jean, étant donné qu'on ne le retrouve pas dans tous les manuscrits. Comprenez? Donc, c'est pour ça un peu que c'est débattu, à savoir, est-ce que c'était là quand Jean a écrit son Évangile. On continue au verset 5. « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Quelle question! Hein? C'est un peu comme demander à quelqu'un qui se fait 38 jours qu'il n'a pas mangé, « Veux-tu manger quelque chose? » Dah! Hein? Ben! Ça fait 38 jours, il n'a pas mangé. Lui, ça fait 38 ans qu'il est couché parce qu'il est malade. Alors, Jésus lui demande quand même, « Veux-tu retrouver la santé? » Il y a une question pourquoi, c'est-à-dire, il y a une raison pourquoi Jésus lui demande cela. Et la raison, c'est simple. Jésus sait qu'il veut retrouver la santé. Hein? La preuve, c'est qu'il est là. Il est à cet endroit-là spécifiquement, puis Jésus le sait, que ceux qui sont là, proches de ces piscines-là, c'est parce que, de la piscine, excusez, mais il y a deux réservoirs, alors, c'est qu'ils espèrent, un jour, être guéris. Et lui, il est là pour ça. Et c'est ce qu'il va répondre aussi à Jésus. Donc, Jésus sait qu'il veut retrouver la santé. C'est clair. Maintenant, la raison pour laquelle il pose la question, c'est simple. C'est pour qu'on, nous, on sache pourquoi qu'il est là. Hein? Puis c'est quoi son espérance à ce malade-là? Son espérance se trouve où? C'est pas dans les médecins. Il n'y a pas d'espoir à ce niveau-là. C'est pas dans une cure potentielle qui existe, qui est expérimentale. Il n'y en a pas à ce moment-là. Mais, apparemment, ça serait possible que celui qui se rend dans l'eau et s'y baigne, eh bien, il va pouvoir, avant tous les autres, être guéri. Et il le sait. Alors, le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous voyez ici, le verset 7, lui, il n'est pas controversé. Il est dans tous les manuscrits. Donc, il y avait effectivement cette croyance que c'était possible d'être guéri en allant dans la piscine. Mais il fallait absolument... OK, il y a un autre... je suis rendu plus loin, moi, là? Ah, merci beaucoup. Merci, Jocelyn. Alors, voilà. Donc, ici, c'est clair que le texte, sans équivoque, parle d'une croyance qui était là, qui était connue, et que ces malades-là le savaient, et ils étaient là pour ça. C'était la raison pour laquelle ils s'étaient rencontrés à cet endroit, et ils attendaient le mouvement de l'eau pour pouvoir. Mais là, pour lui, il lui dit, dans le fond, j'ai personne, donc j'ai pas un bon samaritain, ou j'ai pas quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un qui serait assez gentil pour m'aider quand le bon moment arrive, et qu'il y a ce bouillonnement de l'eau, cette eau qui est agitée, qui normalement ne l'est pas, et que là, je pourrais y aller et me rendre dans la piscine, et là, est guéri. Vous voyez? Alors ça, c'est sa croyance qu'il avait. Et là, Jésus lui dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et le mot qui est là, c'est une natte faite de paille, donc c'était pas un lit comme nous, on les connaît, là, mais c'est un genre de lit qui se roulait, et qu'on pouvait transporter. Donc, prends ton lit, roule-le, puis mets-le sur ton épaule ou sur ton bras, peu importe, et marche. » Et là, ça dit, « Aussitôt, cet homme retrouva la santé. » Il n'a rien fait, il n'a pas montré qu'il croyait en Jésus, il n'a pas montré qu'il avait une quelconque espérance en lui. Lui, dans le fond, il n'a aucune idée, parce que même on le sait, il n'a aucune idée, parce que plus tard, on va lui demander c'est qui t'a fait ça, c'est qui t'a guéri, puis j'en ai aucune idée, justement, il ne sait pas c'est qui. Donc, il connaît rien sur Jésus, puis pourtant il est guéri quand même. Donc, ça dépend de qui ici s'il est guéri. Ça dépend de sa foi. Il n'y en a même pas de foi. Vous comprenez? Ici, ça dépend de quoi? Ça dépend de Jésus, puis ça dépend de sa parole. Imaginez-vous, simplement par sa parole, par le fait qu'il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », boum! Il se lève, et puis il peut prendre son lit et marcher. Il n'y a aucune notion ici que cet homme-là avait une prédisposition ou une piété envers Dieu ou une foi personnelle en Jésus. Il n'y a rien de ça qui est mentionné. C'est clair dans le texte que ça n'a pas rapport du tout à cet homme-là, à sa piété, à sa marche avec Dieu ou à sa foi personnelle en Jésus. Il n'y a rien de ça. Même au contraire. Au contraire. Regardez bien. C'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat! Il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche! » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche! » C'est qui cet effronté-là? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Vous voyez? Il ne connaissait pas Jésus. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. » Et ici, l'idée qui est dans le texte, c'est « cesse de pécher ». Donc, ce n'est pas juste d'une façon générale, là, comme s'il dirait ça à n'importe qui, parce qu'on est tous des pécheurs. Non, il dit à cet homme-là, « cesse de pécher ». Ça veut dire, tu es en train de pécher, tu es en train de commettre un péché, et un péché particulier, et cesse de pécher. Pourquoi? Parce que quand Jésus aussi lit ça ensuite, « de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, de plus grave », là, Jésus est en train de faire une association. Une association entre sa condition dans laquelle il était et maintenant la condition dans laquelle il pourrait se retrouver à nouveau si il ne cesse pas de pécher. Voyez? Mais c'est sûr que Jésus n'est pas en train de dire « ne pêche plus jamais », ce serait impossible, ce serait cruel de dire « ne commets plus jamais de péché ». C'est pas ça que Jésus est en train de dire. C'est clair ici que Jésus est en train de faire une association. Autrement dit, Jésus a une information privilégiée que vous et moi, on n'aurait pas eue, à moins que Dieu nous l'aurait révélée, sur la vie de cet homme-là, comme on le sait que Jésus le savait aussi sur la femme samaritaine, juste dans le chapitre 4 précédent, quand il a dit « va maintenant et… » Appelle ton mari, j'en ai pas, ah c'est vrai, tu as raison, tu en as eu cinq, puis celui avait quitté maintenant en concubinage, hors du mariage, ce n'est pas ton mari. Ah, elle dit, comment ça tu sais ça? Comment ça tu sais ma vie? Venez voir quelqu'un qui connaît ma vie. C'est ça qu'elle a dit ensuite à tous ceux de son village, de sa ville. Alors voyez, Jésus ici, il sait quelque chose aussi sur cet homme, et là il lui fait cette recommandation, même ce... Plus qu'une recommandation, parce qu'ici, c'est clair que c'est très fort comme un ordre, cesse de pécher de peur que quelque chose d'encore plus grave ne t'arrive. Alors, autrement dit, Jésus ici a un intérêt envers cet homme qui est beaucoup plus grand que de rétablir sa santé. Il a un intérêt pour son âme. Hein? Il veut que cet homme-là se servent de ce qui vient de lui arriver comme un moment de grâce pour rentrer en lui-même, réfléchir sur ce que Jésus est en train de lui dire et de dire, « Whoop! » Là, maintenant, il me lance le défi de cesser de pécher. Parce que si je ne cesse pas de pécher, et le péché, il le savait sûrement de quoi Jésus voulait parler, il va m'arriver quelque chose d'encore plus grave. Et là, il y a une invitation à régler sa condition spirituelle avec Dieu. Et encore là, on voit ici l'identité de Jésus, son autorité. Pourquoi est-ce qu'il peut dire une telle chose à un homme? Eh bien, il va l'expliquer un peu plus tard. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Qu'est-ce que ça nous dit un peu sur le caractère de cet homme? Hein? C'est clair que cet homme-là n'a pas, il est pas là parce qu'il cherche Dieu, parce qu'il espère que sa vie va être en règle avec Dieu. Ce n'est pas par des motifs spirituels qu'il est là. Même à la première occasion, quand il est interrogé à savoir pourquoi il fait ce qu'il fait, il blâme quasiment Jésus, ou il met ça sur son dos en disant, « Ben là, moi, je fais juste ce que lui me dit de faire. C'est lui qui me dit de prendre mon lit et de marcher. » Donc, il ne prend pas la défense de Jésus du tout. Puis là, étonné qu'il n'est pas capable de répondre, puis il sait là, que ça chauffe, là. Hein? Il sait qu'ils ne sont pas contents, là, les chefs religieux. Tu es en train de faire de quoi que tu ne devrais pas faire, puis on n'est pas content avec ça. Donc, il sait que Jésus est dans le trouble. Malgré le fait qu'il sait que Jésus est dans le trouble, aussitôt qu'il connaît son identité, qu'est-ce qu'il fait avec? Il s'en va voir les chefs religieux, puis il leur dit, « Ben, c'est Jésus. En fait, tu sais, celui qui m'avait demandé, moi, je ne veux pas être dans le trouble. Donc là, je viens de savoir c'est qui, puis c'est lui, c'est Jésus. Donc, regarde, si vous avez de quoi faire, allez le voir lui, là. Moi, je n'ai rien à faire là-dedans. » Voyez comment que c'est un peu lâche de sa part. Parce qu'on a un autre miracle au chapitre 9 d'un aveugle qui était né aveugle. et qui est guéri. Et lui, il a toute une autre attitude. Il connaît l'identité de Jésus. Quand on lui demande c'est qui a fait ça, non seulement il dit c'est qui a fait ça, mais il prend sa défense à Jésus. Puis là, il commence même à interroger ceux qui sont en train de l'interroger en disant, mais comment ça vous savez pas ça? Puis comment ça vous savez pas que, mais un homme qui commet des péchés, Dieu fait pas ça pour lui. Puis sûrement que c'est un prophète de Dieu. Vous voyez, il y avait toute une autre attitude envers Jésus, cet homme aveugle, que celui-ci a envers Jésus. Donc, c'est pas tellement quelqu'un qui avait des lettres de noblesse. Alors, il y a, ah oui, c'est vrai, ici, je veux juste vous montrer, parce que Jésus se promène souvent d'une place à l'autre. Hein? Il a commencé son ministère, comme on l'a vu, en Galilée, il est allé à Jérusalem, après ça, il est retourné en Galilée, et puis il est allé à Cana, et il est retourné ensuite encore, et c'est ce que le texte nous dit, il est retourné. Et la raison pour laquelle il est allé, cette fois-ci, à Jérusalem, qu'est-ce que le texte nous dit? Oups, voilà. Il y a trois questions qu'il faut répondre. De quelle fête s'agit-il au verset 1? Parce que ça dit, c'est à cause d'une fête qu'il est allé à Jérusalem. Donc, est-ce qu'il y avait une fête en particulier qui était là? C'est-tu important? Habituellement, Jean nous donne des indices à cet égard-là. Deuxième question, comment devons-nous comprendre ce qui est rapporté dans les versets 3 et 4 en ce qui concerne justement là, l'ange qui vient, l'eau qui est agitée? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et finalement, quelle est la vérité centrale que Jean désire communiquer à travers ce troisième miracle de Jésus? Alors, premièrement, la fête juive ici en question n'est pas mentionnée, contrairement à l'habitude de Jean. Parce que si on regarde à plusieurs autres endroits, il est mentionné, par exemple, à trois reprises dans son évangile, au chapitre 2, verset 13, au chapitre 6, donc le chapitre suivant, au verset 4, et au chapitre 11, le verset 55, que la fête en question, pourquoi Jésus est à Jérusalem, c'est celle de Pâques. Ensuite, au chapitre 7, il va parler aussi que Jésus est à Jérusalem à cause de la fête des cabanes ou des huttes ou des tabernacles. C'est toute la même chose, mais un nom différent qui est donné, là. C'est au chapitre 7, verset 2. Et il y a aussi une fois où on parle de la fête de la consécration ou celle de la dédicace. Encore là, c'est la même fête. Au chapitre 10, verset 22. Donc, Jean a l'habitude de nommer la fête pour laquelle Jésus est à Jérusalem, mais ici, il ne le nomme pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le nomme pas? La raison est simple. C'est parce que la seule raison pour laquelle elle est nommée, c'est pour dire, d'un point de vue historique, pourquoi Jésus est rendu à Jérusalem. Mais la fête n'a pas une signification particulière, contrairement aux autres endroits où Jean va nommer justement la fête en question. Donc, parce qu'ici, elle n'a pas un sens particulier pour ce qui se passe, seulement la raison pour laquelle Jésus est allé à Jérusalem, c'est pour ça que Jean n'a pas pris la peine de nommer ces quelles fêtes en question. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour les versets 3 et 4, alors on sait que Bethesda est la transcription grecque du mot hébreu qui veut dire maison des sources. Alors, c'est ça le sens de Bethesda. Et cet endroit-là a fait l'objet de plusieurs fouilles pendant des années, même un siècle environ, où là, ils ont vraiment cherché tout ce qu'ils pouvaient essayer de trouver en ce qui concerne cet endroit-là qui est nommé dans la parole de Dieu. Et cet endroit-là existe véritablement et il se situe dans le quartier nord-est de la vieille ville de Jérusalem et près, justement, de la porte des brebis que l'on voit nommée dans Néhémie au chapitre 3, verset 1, verset 32, chapitre 12 et verset 39. C'est exactement à la même endroit que Néhémie le mentionne lorsqu'il parle de la porte des brebis, quand il fait la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et à cet endroit-là, il y avait deux bassins d'eau, un qui était au nord et l'autre qui était au sud. Et les deux bassins étaient entourés par quatre séries de colonnes. Okay? Alors, il y en avait tout le tour et il y en avait une au centre aussi, donc les cinq portiques qui étaient là, les cinq séries de colonnes. Et ces cinq séries de colonnes-là qui environnaient les deux bassins et au centre aussi les séparaient, étaient recouverts comme une toiture par-dessus. Et là, les malades pouvaient justement venir sous ces portiques-là et être là pour être à l'abri du soleil et ainsi de suite. Et en même temps, comme ça dit, attendre que le bouillonnement de l'eau se manifeste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre cette mention-là qu'un ange venait puis semblait bouger l'eau, et puis là, quand l'eau bougeait, celui qui venait se mettait à l'eau, et là, il était guéri. Alors, est-ce que c'est littéralement arrivé qu'un ange comme ça venait? Et il semblerait que ça fait plutôt référence à une croyance populaire, comme une genre de superstition, qui avait à la fois un côté de cette croyance populaire, puis à la fois un côté véridique, c'est-à-dire que l'eau bougeait vraiment. Il y avait vraiment un bouillonnement d'eau. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on le sait qu'il y avait les réservoirs de Salomon qui avaient été construits pour alimenter ces deux réservoirs-là, mais il y avait aussi des sources souterraines qui, elles, venaient d'une façon intermittente. Donc, il semblerait que quand, justement, il y avait cette source souterraine qui venait alimenter les réservoirs, que là, il y avait ce mouvement de l'eau à cause de l'eau là, qui venait d'une façon un peu subite et non habituelle. Donc, occasionnellement, il y avait cette eau souterraine-là qui venait et faisait bouillonner l'eau. Donc, il semble qu'ici, il y a à la fois une croyance populaire qui reflète plutôt d'une superstition et à la fois un phénomène naturel qui était en train de jouer ensemble. Comme des croyances populaires que l'on a au Québec, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà été chercher l'eau de Pâques, hein? Il faut aller chercher l'eau de Pâques quand? Avant le lever du soleil. Et la journée de Pâques, c'est encore meilleur. OK? Puis là, il y a toutes sortes de croyances là-dessus que cette eau-là, tu peux la garder, puis elle pourrira jamais. Et si tu prends cette eau-là, puis tu en mets à des endroits où tu veux être guéri, eh bien, ça va te guérir. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé? OK? Une personne? Juste une? Ben, hey! Deux? Pas plus! Eh bien, moi, je l'ai essayé. Ouais, je me souviens, j'étais adolescent. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, à un moment donné, ma mère m'a dit ça. Puis j'avais un problème. Alors, j'ai dit, voyez-les, moi. Puis je me suis levé le matin de bonne heure. Puis j'étais allé à un endroit où il y avait de l'eau de source. Parce que ça prend de l'eau de source. Puis là, je l'ai mis une bouteille. Puis là, j'ai mis ça. Puis j'ai mis ça. Puis j'ai mis ça. Puis j'ai mis ça. J'ai mis ça. J'ai mis ça. Puis j'ai fini toute la bouteille. Puis mon problème, c'est pas en aller. Mais une croyance populaire, ça doit quand même avoir une origine avec quelque chose qui s'est passé. Et puis là, à partir de là, hein, là, ça amplifie, puis à un moment donné, ça fait encore plus, et ainsi de suite. Donc, c'est fort possible que ce soit le cas ici, que dans le fond, cet homme-là était là. Il dit, mon seul espoir, moi, étant couché depuis 38 ans, c'est d'être à cet endroit-là, puis d'espérer que peut-être, il va y avoir quelqu'un de gentil, ou quelqu'un de fin, ou quelqu'un qui va m'aider, et je vais pouvoir aller dans l'eau. Mais il faut y donner ça à cet homme-là. Il était quand même désireux, hein? Il voulait être guéri, parce qu'il était là, puis il restait là. C'est sûr qu'il ne peut pas se déplacer bien, puis il fallait qu'il y ait de l'aide quand il voulait se déplacer, mais quand même, une chose est certaine, c'était là. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus, quand il lui demande « Veux-tu être guéri? » sachant qu'il est là depuis 38 ans, connaissant cette coutume-là, ou cette croyance populaire, ou cette superstition, Jésus ne prend pas le temps de s'arrêter là-dessus. Hein? Il ne prend pas le temps de répondre à ça. Il ne prend pas le temps de donner des explications par rapport à ça. Jésus a passé par-dessus ça. Et là, il lui a offert plutôt, lui, de le guérir. Et c'est pour ça que là, il lui a dit, et l'homme, là, il n'avait pas d'autre choix. C'est clair dans le texte. Ça n'a rien à faire avec le monsieur. L'homme, il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas faire autrement que se lever et d'être instantanément guéri. Ça n'a pas été progressif, là. Ça a été instantané. Et ça, c'est seulement par la puissance de la parole de Jésus. C'est quand même assez exceptionnel. Et ça nous reflète justement que Jésus est le Logos puissant, celui qui est venu, comme Jean 1 nous le montre, dans lequel le Logos, c'est la parole, c'est dans lequel il y a un message, il y a un contenu, puis il y a une personne. Et cette personne-là, elle est venue dans le monde avec un message clair et un contenu clair. Et ici, il est en train de révéler justement qui il est à travers cela. C'est lui qui a guéri un homme infirme depuis 38 ans en prononçant une seule phrase, « Prends ton lit et marche » au verset 8. C'est lui aussi qui a ordonné à cet homme de se déplacer avec son lit le jour du sabbat. Il pouvait le faire, il avait l'autorité de le faire au verset 8 encore là. C'est lui qui, un peu plus tard, et on va le voir la prochaine fois, mais c'est lui qui affirme son égalité avec Dieu. Imaginez-vous, là, par sa simple parole, il dit être égal avec son Père en disant ceci. Pourquoi j'ai fait ça le jour du sabbat? Bien, c'est simple. Mon Père, il travaille le jour du sabbat. Mais moi aussi, je travaille. Wow! Que c'est ça, cette affaire-là? Moi, je peux faire ça le jour du sabbat parce que tout comme mon Père travaille, lui, le jour du sabbat, moi aussi, je travaille le jour du sabbat. Il agit, j'agis moi aussi également. Et le mot qui est là pour agir, c'est vraiment l'idée ici de travailler, de faire quelque chose qui rentre dans la catégorie d'un travail. Et pour les humains, d'un travail que tu étais rémunéré pour. Donc, Jésus, comme son Père, travaille. On voit aussi un peu plus loin que Jésus va, par sa parole, un jour, ressusciter les morts, ou il ressuscite qui il veut, par sa parole, simplement en disant « Lazare, sors! » Qu'est-ce qu'a fait Lazare? Écoutez, est-ce que Lazare pouvait avoir la foi? Il était mort! Comprenez? Il était mort! Lazare, là, il sentait. Fait que donc, c'est clair qu'il était mort. Je comprends qu'il y en a des hommes qui sont pas morts puis ils sentent. Ça, c'est une autre histoire. Venez pas me voir, s'il vous plaît, pour me dire que vous connaissez des hommes qui sentent. C'est pas ça, là, ce matin. Mais le texte dit clairement qu'il sentait parce qu'il était mort. Donc, pour démontrer qu'il était vraiment mort, qu'il n'était pas juste endormi, là. Non, non, il était vraiment mort, le monsieur. Mais par sa parole, Jésus ressuscite les morts. Puis un jour, il va ressusciter tous les morts. Lui, Jésus, par sa parole, simplement par sa parole, tellement qu'il est puissant. Et aussi au verset 28-29 de l'Évangile de Jean, chapitre 5, c'est Jésus aussi qui va décider de la destinée de chaque être humain au jugement dernier. Ça, c'est tellement puissant que Jésus est. Par sa parole seulement, il va faire ces choses-là. Incroyable. Alors ça, c'est quand même un élément très important. Puis ici, la vérité centrale, mais c'est celle-ci. Aucune croyance populaire ou superstition ne peut remédier à nos problèmes, nos maladies, nos difficultés, nos infirmités, nos épreuves et encore moins nos péchés. Seul Jésus, le Créateur, par sa parole, sa présence et sa puissance, peut nous sortir de notre misère humaine, nous guérir et nous sauver. Amen? Amen? Seul Jésus. Tu sais, en fait, notre destinée, là, elle est vraiment entre les mains de Jésus. Et nous, on a tendance souvent à mettre notre espérance dans toutes sortes de choses autour de nous, des choses créées, des croyances populaires, même des superstitions des fois. Mais en fait, même ce texte-là nous le montre, il y a seulement Jésus qui est notre espérance. Lui seul peut faire la différence. Lui seul. J'aimerais ça maintenant aller à un autre petit diapo. J'aimerais ça répondre à la question qui est soulevée par la déclaration de Jésus quand il dit « Maintenant que tu es guéri, cesse de pécher de peur que quelque chose de plus grave t'arrive encore. » Et là, j'aimerais ça vous donner une perspective biblique sur les tragédies qui nous arrivent sur terre à travers la souffrance, la maladie et les malheurs. Et là, basé un peu ici, justement, sur Jean, chapitre 5, et là, le verset 14. « Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, c'est-à-dire tu as été guéri, tu es bien portant, tu es sain. » Et en anglais, c'est intéressant, c'est « made whole ». C'est comme si là, tu es entier maintenant. C'est comme avant, la maladie était venue chercher quelque chose de toi qui n'était plus toi et qui t'empêchait d'être toi, d'être entier. Et là, maintenant, je t'ai redonné ton entièreté. Tu es maintenant sain, tu es maintenant en santé, maintenant tu es bien portant. Et c'est quand même intéressant de voir le mot qui est là. Cesse de pécher de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Donc, la première chose qui est important de prendre en considération ici pour comprendre la perspective de Dieu, c'est que certaines tragédies doivent être considérées comme étant la conséquence directe d'un péché particulier. Et là, ici, on a, par exemple, 2 rois 5, 20, 27, où c'est Guérazi, qui est le jeune serviteur d'Élisée, qui a voulu profiter de la guérison de Naaman, qui était le chef de l'armée syrienne, et il est allé demander une partie de la récompense qu'Élisée avait refusée. Donc, c'est Élisée qui aurait dû ou qui aurait pu accepter ça, mais il a refusé, il a dit, il n'y en a pas question, je veux rien savoir, même s'il a insisté, puis insisté, puis insisté, il dit non, 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 à chaque fois, je ne prends rien de ce que tu as à m'offrir. Lui, il part en secret, et là, il s'en va rencontrer Naaman, puis il lui dit, ah, finalement, mon maître aurait besoin de ceci et cela, puis là, il reçoit des récompenses, et on voit que c'est par avarice qu'il est allé faire ça. Maintenant, Élisée l'a su, par révélation de Dieu. Et là, quand il l'a rencontré, il lui a parlé, il lui a dit, savez-vous quoi? À cause de ton avarice, la lèpre de Naaman, elle va tomber sur toi et sur ta descendance. Wow! C'est clair, là, ici. Aucun doute que le péché d'un individu a entraîné une conséquence et une maladie, non seulement sur lui, mais même sur sa descendance. C'était assez, assez gros comme conséquence. Aussi, on a Acte 5, 1 à 11. Dans le verset 1 à 11, c'est un couple qui s'appelle Ananias et Saphira qui décide de vendre un terrain puis de le donner à l'Église pour les biens, parce que là, il y avait beaucoup de chrétiens, de nouveaux chrétiens, des familles qui s'étaient converties et malheureusement, à cause de la famine et ainsi de suite, n'avait pas de quoi suffisamment pour se nourrir. Et puis là, l'Église a commencé à avoir son premier ministère envers les nécessiteux. Et puis là, il y en a qui emmenaient des choses. Il y en a qui ont vendu des choses, comme Barnabas avait vendu lui aussi une propriété. Et en avait donné la totalité à l'Église pour qu'il puisse justement répondre aux besoins de ces chrétiens qui étaient nécessiteux. Et là, eux autres, ce couple-là, décident de dire, « Ah, c'est le fun, as-tu vu ça? Wow! Hey, regarde ça, ils ont été louangés, tout le monde parle d'eux autres. Hey, as-tu vu la générosité de Barnabas? » Et puis, tatatata. Et puis là, ils montent dans leur cœur un petit quelque chose. Ah ben nous autres ici, on va faire pareil. Mais on ne fera pas tout à fait pareil. Parce que c'est beaucoup d'argent. Fait qu'on va en donner une partie, puis on va en garder une partie. Ouais. Ils s'entendent les deux ensemble là-dessus. Ouais. Mais on va laisser entendre qu'on donne tout, comme Barnabas. Et puis là, encore là, par révélation, l'apôtre Pierre sait le stratagème qu'ils sont en train d'utiliser. Et là, c'est clair ici, encore là, que leur péché particulier d'hypocrisie, d'orgueil, de complicité, de stratagème inspiré par des motifs impurs ont entraîné la mort prématurée du couple. Et là, on va vous dire de quoi, ça a fait un choc sismique dans l'Église, là, hein? Là, c'était comme, je peux vous imaginer, celui qui venait apporter son offrande après, puis là, il disait, hein? Et le point ici, c'est pas qu'il fallait qu'il donne tout, comprenez? C'est ça que même Pierre dit en réponse. T'es pas obligé, là. T'étais pas obligé même de vendre ton terrain. Personne te l'avait demandé. Dieu te le demandait pas non plus. T'es pas obligé de faire ça. C'était volontaire. Tu avais le droit, c'est correct, c'était à toi. Tu pouvais le faire d'un bon cœur, pour Dieu, par amour. Mais c'est pas ça que vous avez fait. Là, vous avez essayé de jouer la game des hommes. Vous avez essayé d'avoir la gloire des hommes, tout en laissant entendre que... Et c'est ça que Dieu a voulu mettre en évidence, que c'est inacceptable. Et là, c'était naturellement une sentence exemplaire. Et ça n'a pas dit ailleurs que... une chose comme ça est arrivée encore avec quelqu'un qui a apporté son offrande, OK? Pas personne d'autre qui a apporté ça en apportant son offrande. Mais l'idée, c'était, viens, puis donne à Dieu ce que tu veux donner. Si tu veux en garder une partie, célèbre-toi, c'est correct. Tu n'as pas à t'en sentir mal, puis tu n'as pas à te justifier. C'est correct. Dieu, il est comme ça, hein? C'est fantastique. C'est ça, la liberté. Merveilleux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Amen. Il aime qu'on soit généreux. Mais il ne veut pas placer des fardeaux sur nos épaules puis nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas, puis ainsi de suite. Puis là, jouer un jeu. Ah, non. 1 Corinthiens, maintenant, 11:30, dit aussi, encore là d'une façon claire, que la maladie, l'infirmité et la mort prématurée de plusieurs chrétiens de l'Église de Corinthe a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient participé indignement au repas du Seigneur. Et là, il y a tout un enseignement là-dessus, puis une mise en garde par rapport à ça. Donc, on voit dans les Écritures cette vérité-là. Deuxièmement, il existe un lien. On ne peut pas passer à côté entre l'instruction que Jésus donne à cet homme, cesse de pécher, et la mise en garde qu'il lui adresse de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire encore. Et la conclusion, vous savez, c'est la suivante. Le péché entraîne toujours des conséquences qui peuvent être très graves. Parfois, cela arrivera dans l'immédiat. Et parfois, cela arrivera seulement dans l'éternité, s'il n'y a pas de repentance et de pardon en Jésus. Mais il y a toujours des conséquences au péché. Mais c'est vrai que toutes les maladies ne sont pas liées à un péché en particulier. Tout comme c'est vrai que les gens qui sont en santé, ce n'est pas parce que ce n'est pas des grands pécheurs. OK? C'est vrai ça aussi. Il y a des gens qui pètent le feu. Il y a des gens qui ont fait attention à rien dans leur vie. Ils ont vécu des vies absolument de désordre. Ils se sont donnés à cœur joie dans tout ce qui existait de bon et de mauvais. Puis ils meurent à 105 ans. Puis ils ont été tout le temps pétants comme incroyables. C'est vrai ça aussi. Donc, faut pas penser que parce que quelqu'un est malade souvent, que c'est parce que lui, il pêche plus qu'un autre. Ça serait complètement déraisonnable de penser ça, et c'est pas ce que le texte dit. Mais ça serait faux aussi de penser que c'est impossible que certaines de ces tragédies qui arrivent dans nos vies ou de maladies qui arrivent dans nos vies n'ont aucun lien aussi avec certains péchés qu'on commet. OK? Si vous vous rappelez dans Genèse chapitre 3, quand l'homme et la femme ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Il va avoir des conséquences. Et certaines de ces conséquences-là, c'était quoi? C'était justement des tragédies, de la souffrance. Souffrance au niveau de l'enfantement, de la grossesse, souffrance au niveau des relations de couple, hein? Il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits. Souffrance au niveau de l'homme qui va travailler, puis il va embûcher point qu'un peu, et souffrance en général. Voyez? Donc, oui, dans ce sens-là, le péché est derrière toutes les tragédies et la souffrance et la maladie et les malheurs. Si ce n'est pas mon péché, c'est le péché de quelqu'un d'autre, ou c'est le péché d'Adam et Ève qui ont entraîné sur notre monde un chaos et toutes sortes de problèmes qui n'auraient pas eu lieu s'ils n'avaient pas péché, eux. De même, nous, dans nos vies, on peut aussi entraîner certaines conséquences. Mais comme je disais tantôt, c'est soit maintenant, dans l'immédiat, ou plus tard. Mais, et ça c'est le prochain point, les tragédies de la vie ne sont pas la preuve irréfutable de la déchéance morale et de la culpabilité des victimes. Et ça c'est important, et là vous avez Jean 9, 3 et Luc 13, 1 à 5, où Jésus dit clairement ici que ce qui s'est passé n'avait aucun rapport avec le péché de la personne. Aucun rapport. Comme ici, là, celui qui était né aveugle, ça n'a pas rapport avec lui, puis ça n'a pas rapport non plus avec ses parents qu'ils avaient commis un péché, ça a plutôt rapport même à ce que Dieu va pouvoir manifester sa puissance et sa grâce. Et dans ce sens-là, vous savez, tout comme on le voit dans Genèse 3 d'ailleurs, c'est Dieu qui a dit « Je vais augmenter ta peine et ta souffrance. » Ça semble être une sentence dure, hein? Comme si Dieu est dur envers l'être humain. Mais en fait, si on regarde ça à nouveau, on peut arriver à la conclusion qui est vraie, qui est la suivante. C'est que Dieu veut susciter en nous notre besoin de rédemption, notre besoin de pardon, notre besoin de redevenir entier, parce que le péché nous dérobe quelque chose. Et la maladie et la souffrance est une chose tangible que l'on doit faire face avec et qui nous ramène sur nos genoux, qui nous ramène à une dépendance, qui nous ramène au fait qu'on n'est pas autosuffisant, on n'est pas aussi fort qu'on aimerait être, on n'est pas capable autant qu'on voudrait l'être. et que parfois on est justement devant des situations. Et dans ce sens-là, ceux qui sont souvent les plus éprouvés sont aussi ceux qui ont le plus la possibilité de se tourner vers Dieu. Et combien de personnes se tournent vers Dieu lorsque justement ils sont en train de faire face à des tragédies? Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et dans ce sens-là, même la souffrance, même les tragédies, la maladie, peut être considérée aussi comme une grâce de Dieu, parce qu'il veut nous rapprocher de lui. Il veut faire une œuvre dans notre vie. Il veut même peut-être nous accorder un miracle pour qu'on puisse donner gloire à son nom. Toutes ces possibilités-là sont là. Mais une chose est sûre, il a notre bien-être dans sa mire. Quatrième chose que l'on voit que la Bible enseigne sur les tragédies, c'est que la souffrance, la maladie, les malheurs découlent tous de la chute et d'une vie vécue dans un univers déchu et rebelle. Et on peut regarder Luc 4, 18 et Matthieu 8, 16 à 17 qui viennent confirmer aussi cela. Finalement, la cinquième, c'est que Jésus a possiblement, c'est pas une garantie absolue, mais on peut facilement le croire, qu'il a choisi cet homme infirme parmi tant d'autres malades, justement parce que sa maladie à lui, et à lui seulement, était la conséquence immédiate de son péché. Et Jésus le savait. Et donc, ce que ça voudrait dire, si c'est le cas, okay, si c'est bien ça, là, que dans le fond, cet homme-là, il est dans la condition dans laquelle il est parce qu'il y a un péché dans sa vie, et ce péché-là a entraîné des conséquences graves, et il est justement là, puis ça fait 38 ans qu'il souffre comme ça, et là, Jésus l'a choisi, lui, parce que c'est Jésus qui l'a choisi. Lui, il n'est pas allé vers Jésus, il n'a pas crié « Jésus, Jésus, Jésus ». Non, non, il ne sait même pas c'est qui. Mais Jésus l'a choisi, lui, est allé vers lui. Puis là, il lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Et que là, Jésus l'aurait choisi particulièrement parce qu'il connaissait cette condition-là. Il connaissait que cet homme-là était dans cette condition-là parce qu'il avait péché contre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si c'est le cas, si c'est vrai. Vous voyez, ça n'a rien à faire avec nos mérites. On pourrait dire, de tous les malades qui étaient là, là, c'était peut-être le seul qui ne méritait pas d'être guéri. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Hein? Mais sèche! C'est ça, sèche! Regarde, tu as vécu, c'est ça, tu as commis, c'est ça. Mais regarde, tiens, bang! Et ça, les pharisiens auraient été capables de faire ça. Hein? Les pharisiens, c'était leur style, là. Mais non, ici, Jésus l'a choisi spécialement parce qu'il connaît sa condition, puis il connaît pourquoi qu'il est comme ça. Et là, c'est ça la grâce de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on est très coupable qu'on est hors de la portée de la grâce de Dieu. Non, souvent, c'est l'inverse. C'est notre grande culpabilité qui nous rend accessibles à la grâce de Dieu. Ça, c'est absolument exceptionnel. Et ça, ça nous fait penser à Romains 2, 4, où on voit que la meilleure réponse à la grande bonté de Dieu est de se tourner vers Jésus et de se repentir de ses péchés. Et c'est ça ici, là, c'est un acte pur de grâce et de bonté que Jésus fait à cet homme-là. Et regardez le verset. « Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse? » Ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde si longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, te repentir de tes péchés et de te pousser à la conversion? Vous savez, chacun de nous, si on regarderait notre vie, on pourrait constater à de multiples occasions comment Dieu était bon envers nous. Et si on calculerait les bontés de Dieu, on pourrait être assez renversé. Mais en plus de cela, il y a beaucoup de bontés de Dieu qu'on n'est même pas conscient et qu'un jour dans l'éternité, si Dieu nous montre le film de notre vie, il va nous montrer, regarde là, cette occasion-là, moi j'étais derrière ça. C'est moi qui a permis ça. C'est moi qui a empêché telle chose. C'est moi qui a amené telle chose dans ta vie. C'est moi qui a permis telle affaire. Puis que ça t'a été très bénéfique et t'as été béni. Tu t'en es même pas rendu compte. Tu ne pouvais même pas me rendre gloire parce que tu n'en as pas été conscient. Parce que c'est sûr qu'on en manque. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est sûr qu'on en manque. Dieu, il est comme ça. Dieu, il est bon. Ce n'est pas parce que vous avez une épreuve présentement dans votre vie ou que vous passez à travers une tragédie ou une maladie, quelque chose de semblable. Vous savez, l'ennemi, là, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut faire croire que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Que Dieu ne vous aime pas. Comment est-ce qu'un Dieu qui est bon, qui t'aime, permettrait une telle épreuve ou une telle situation dans ta vie? Voyons donc! Voyons donc! Maudis-le! Pourquoi tu le suivrais? Pourquoi tu donnerais ta vie? Pourquoi tu donnerais le meilleur de toi-même? Pourquoi tu y ferais confiance? Voyons donc, toi, tu des enfants, tu des gens que t'aimes, tu lui ferais tout ça? Tu lui permettrais tout ça? Ben non, tu éviterais toutes ces affaires-là. Tu les mettrais dans de la ouate, dans de la crème, tu les bénirais, tu ferais tout pour qu'ils soient heureux. Puis Dieu, il fait ça. Il permet ça dans ta vie. C'est pour ton bien. Ouais, 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 c'est ton bien. Ouais, 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 ouais. Tiens, ouais, ouais. Hein? Comment est-ce qu'une maladie peut être pour notre bien? Bien, si ça nous permet de rencontrer Jésus. Qu'est-ce qui est plus important dans votre vie? Un bonheur sur une île paradisiaque ou l'éternité avec Jésus? Et une vie sur la terre où Jésus est votre bon berger. De la souffrance, des épreuves, mais jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me guide. Non, je ne suis jamais tout seul.